Africa. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau sur Africa Radio.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous du vendredi sur Africa Radio. Vendredi, c'est permis. VCP pour les intimes, c'est l'actualité dans tous ses états sur Africa Radio. L'émission est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris, 17h TU. Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/vendredi, c'est permis.
Africa. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau sur Africa Radio.
Avec aujourd'hui un plateau 100% politique avec Joël Didier Ango. Bonsoir Joël Didier Ango.
Bonsoir Francis Laloupeau.
Joël Didier Ango, président du comité de libération des prisonniers politiques du Cameroun.
Pas du Cameroun. Le comité de libération des prisonniers politiques.
Tout court, partout dans le monde.
Oui.
En tout cas, le sigle, c'est CL2P.
Oui, au Cameroun, c'est notre matrice.
C'est votre matrice, oui, bien sûr. Francis Loko est avec nous. Bonsoir, Francis Loko.
Bonsoir, M. Laloupeau. Merci de nous inviter.
Membre du bureau politique de la Renaissance du Bénin. Basile Akodé est avec nous. Bonsoir, Basile Akodé.
Bonsoir, M. Laloupeau.
Et vous êtes membre de la direction du Comité culturel pour la démocratie au Bénin, le CCDB. On en dirait un mot tout à l'heure parce que c'est un mouvement historique. Hein.
Tout à fait.
Vous êtes également membre du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, CSDB. Et l'émission est réalisée par Antoine Cruchon.
Vendredi, c'est permis sur Africa Radio.
Également nous envoyer des messages, vous le savez, sur notre numéro WhatsApp, c'est le 337 66 19 77 69, je répète, 33 7 66 19 77 69, c'est le WhatsApp, vous avez l'habitude désormais. Et nos meilleures salutations, comme de coutume, à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et bien sûr, toujours une pensée forte à nos amis de Bujumbura au Burundi.
Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau et ses débatteurs sur Africa Radio.
Deux sujets 100% politiques hein, dans cette édition. Le Bénin, nous parlerons de l'enlisement de la crise politique au Bénin et la mobilisation qui se fait désormais inédite de la diaspora béninoise. Et nous parlerons également du Cameroun, l'offensive de la diaspora camerounaise. Paul Biya est-il désormais indésirable en Suisse ? Voilà donc pour le sommaire. Alors, je vais commencer avec vous, Basile Akodé, parce que je vous présentais comme membre de la direction du Comité culturel pour la démocratie au Bénin, un mouvement qui a été créé dans les années 80 pour lutter à l'époque contre la dictature au Bénin, hein, la dictature du régime du président Mathieu Kérékou. Et alors, entre-temps, la conférence nationale est passée par là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que on est en train de vous voler un peu la lutte que vous avez menée dans les années 80?
Alors, comme vous avez dit, le Comité culturel pour la démocratie au Bénin a été créé par nécessité pour faire face à une situation qui nous avait été imposée. C'était la dictature de Mathieu Kérékou. Et c'était très, très, très sérieux dans la mesure où, au moment de la création, il n'y avait aucun Béninois dans la diaspora qui osait se rapprocher, même pour prendre ne serait-ce qu'un tract. Parce que, au niveau de l'ambassade, c'est rempli de mouchards et les compatriotes ont peur.
Ça, c'était les années 82-84.
81. Donc, on a modestement contribué donc à faire tomber la dictature. Il faut dire que en 89, les exigences populaires étaient placées très haut. Mmh. C'est-à-dire que non seulement la démocratie, rétablir donc la démocratie, mais aussi il y a eu une lutte contre l'impunité qui était très forte. Et on parlait en ce moment-là de faire rendre gorge les pilleurs donc de l'économie nationale. Et il y avait aussi un modèle de contrôle populaire de la gestion du bien public.
C'est ça.
Alors, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on a oublié les raisons pour lesquelles on se battait en 81.
Ah justement, alors comment réagissez-vous quand vous observez aujourd'hui que certains présentent Mathieu Kérékou comme un héros national?
Mais justement, c'est que lorsque l'on oublie son histoire, eh bien, malheureusement,
Elle se reproduit.
L'exemple de Talon en est typique. C'est pour ça que, fondamentalement, la question actuelle chez nous, c'est que le système de renouveau démocratique a échoué. Et ça, dès la conférence nationale. Parce que si on arrive à présenter quelqu'un comme un sauveur, un patriote, mais c'est parce que le travail n'a pas été fait pour que ce qui s'est passé, notre histoire, soit enseigné dans les écoles. On a plutôt habitué les gens à la facilité. L'argent, on peut, ça coulait de source comme si ça pouvait tomber du ciel. Le travail bien fait, la rationalité, le don de soi qui était caractéristique donc de la période d'alors, on a tout perdu. C'est ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui est clochardisée. Les gens en ont besoin quand il y a des élections. On leur file 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA par là, on les utilise. Mais le fond du problème reste là. C'est pour ça que le problème fondamental aujourd'hui, c'est la crise du système de renouveau démocratique qui nous a amenés à des gens comme Talon qui prennent le pays en otage aujourd'hui.
On va justement parler de l'actualité. Basile Akodé, avec nous également dans cette édition, Francis Loco et Joël Didier Ingo. Au Bénin, donc, cette crise politique que nul n'a vu venir et qui se prolonge, les Béninois doivent-ils prendre acte désormais et définitivement d'un changement profond de système politique orchestré par l'actuel régime, un changement de système qui se caractérise notamment par une rupture avec ce qui a fait la spécificité de ce pays depuis 3 décennies, une démocratie certes imparfaite, comme toutes les démocraties d'ailleurs, mais qui constituait le socle de la citoyenneté partagée et apaisée dans ce pays qui, pour la première fois, doit compter avec le recul des libertés publiques et diverses formes de violence à l'encontre des populations et des adversaires du pouvoir. Désormais, cette crise, que personne n'aurait imaginée il y a peu encore, s'installe au cœur de l'agenda de la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. Francis Loco, d'abord un point sur la situation. Où en est-on aujourd'hui de l'évolution de cette crise politique ?
Merci, M. Lagoupo. D'abord, un petit correctif. Je suis également membre du bureau, n'est-ce pas, du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin.
D'accord.
Non, je crois que, si vous voulez, le monde est stupéfait par ce qui se passe au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, le régime de la rupture tue, emprisonne, bâillonne. Donc il y a véritablement un problème dramatique. Et les populations résistent. Et résistent comment ? Vous avez constaté lors des dernières élections législatives qu'il y a eu une abstention massive. C'est-à-dire que c'était une abstention, une élection, j'allais dire, de type référendaire. Et je crois que les populations sont exprimées. Elles ont rejeté le projet politique parce que le président Talon a un projet politique qui a été véritablement rejeté par les populations. La CEDEAO s'est prononcée il y a quelques jours. Elle a dit avec clarté que, les élections se sont faites n'ont pas été inclusives. La CEDEAO a reconnu qu'il y a crise et la CEDEAO a proposé, n'est-ce pas, une médiation via la commission. Donc, voilà où nous en sommes. Le président Talon a pris l'initiative de convoquer une partie des partis politiques pour le 15.
Oui, parce qu'il faut préciser que le président Patrice Talon, qui a effectué cette semaine un court séjour à Paris, propose désormais un dialogue politique. La question, c'est de savoir quel serait le format de ce dialogue, qu'est-ce qu'on peut en attendre et avec qui va dialoguer le pouvoir.
Je dois dire que, cher monsieur, aussi bien le collectif que, n'est-ce pas, la résistance, véritablement, considère que, si vous me permettez, comme disent les jeunes, on a affaire à un foutage de gueule. Dans un pays, il n'y a plus la confiance, je ne vois pas comment on peut éviter qu'un médiateur interne ou international, n'est-ce pas, s'implique dans cette affaire. Donc je suis quasiment sûr que la résistance, l'opposition en général sera unie sur le fait qu'il faut véritablement ne pas répondre.
Pourquoi tout d'un coup cette offre de dialogue, parce que c'est prévu pour le 15 juillet, vous l'avez dit.
Oui.
Le 15 juillet, c'est demain, quoi. Je veux dire, que d'où sort, je dirais, cette idée de faire, d'abord pour préparer un dialogue comme celui-là, dans un pays en crise, il faut prendre le temps de le faire. Mais comment imaginez-vous dialogue dans quelques jours, la semaine prochaine ?
Écoutez, un chef de l'État qui dit une chose, fait l'autre, élargit le président Yahi sous la pression du président du Nigeria, Buhari, et puis le lendemain arrête le majordome du président
De l'ancien Yahi, président
Yahi, envoie des militaires, la soldatesque, donc à Tchaourou. Donc, non, je crois que tout ça n'est pas sérieux, et je crois que l'ensemble de l'opposition ne prend pas ces propositions de façon sérieuse.
Joël Didier Ingo, quel regard vous portez, vous qui êtes du Cameroun, sur cette situation au Bénin ?
Je ne suis pas seulement du Cameroun, sur ce
plateau
africain. Et ce qui se passe au Bénin nous attriste davantage parce que le Bénin, ces dernières trois décennies, était devenu un modèle pour nous. Et je disais à mes frères et camarades tout à l'heure, avant de commencer l'émission, que nous sommes attristés de voir le Bénin plonger dans les affres que nous connaissons en Afrique centrale depuis des années, avec des méthodes qui ressemblent à celles qu'utilisent nos autocrates depuis des années, notamment on parlait du Cameroun. Cette forme d'intimidation de tout ce qui est opposant et tout ce qui est leader de la société civile, on connaît ça. La première fois que j'étais venu ici, lorsqu'on créait le comité de libération des prisonniers politiques, je disais le Cameroun, c'est la matrice. Je n'ai jamais imaginé que j'allais retrouver les mêmes symptômes au Bénin quelques années après. Ça veut vraiment dire que, d'une part, les autocrates africains ont la mémoire sélective, mais courte, parce que M. Talon était en exil ici. Et on avait même milité pour qu'il reparte au Bénin, se présenter à l'élection présidentielle. Et lorsque je vois M. Ayavon, par exemple, aujourd'hui en exil à Paris, et que le secrétaire d'État aux affaires étrangères avait été interrogé au Parlement sur ce cas, en disant « oui, nous lui avons accordé l'asile politique », mais ce n'est pas simplement accorder l'asile politique, il faut mettre la pression, certes diplomatique suffisante, pour que des choses comme ça ne se reproduisent plus, et que des États qui étaient des modèles pour nous qui venons d'Afrique centrale, comme le Bénin ou même le Sénégal, parce qu'on a vu quelque chose qu'on n'aime pas au Sénégal aussi, ne retombent plus dans ces travers-là, et nous poussent plutôt, pour nous qui sommes l'Afrique centrale, qui reste vraiment la matrice des autocraties en Afrique, nous puissions encore montrer ça comme des modèles atteignables. Parce que c'est atteignable. On nous disait pendant des années que la démocratie était un luxe pour l'Afrique. Non, le Bénin a été une démocratie et espérons le demeurera grâce à l'apport et à la lutte de nos camarades qui sont ici. C'est ce que je voulais dire d'entrée là-dessus.
Basile Akande, est-ce qu'il y a un risque de voir la population béninoise s'habituer à la situation actuelle ?
S'habituer ? Ce que se passe actuellement là, le président Talon joue avec les nerfs de notre peuple. On parle de dialogue. Pour être clair, Patrice Talon est incapable de dialoguer avec son peuple. Il méprise son peuple. Son plan, il a conçu depuis, il a théorisé pour avoir tout le monde, pour être réélu. On peut être un cancre et le faire. Il suffit d'avoir tout le monde dans sa poche. Pour lui, démocratie, il ne connaît pas. C'est achat des hommes et des femmes politiques au Bénin. Malheureusement pour lui, il ne peut pas acheter tout le monde. Alors, cette question de dialogue-là, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe en tant que militant du Comité culturel pour la démocratie au Bénin et en tant qu'acteur qui avait combattu la première autocratie chez nous. Ce qui me préoccupe, il faut restituer la démocratie au Bénin. Il faut restituer l'état de droit. Les lois, les libertés fondamentales, c'est irrépressible. C'est comme on respire, on mange, on fait pipi, on fait caca. Donc, Talon, qui est Talon pour arracher au peuple béninois ces libertés fondamentales? Donc, je dis, sans que ces libertés ne soient restituées, sans que les lois scélérates ne soient abrogées, sans que les prisonniers politiques qu'il a construit de faux dossiers pour mettre en prison, sans que les exilés politiques qu'il a chassés ne reviennent à la maison, ses concurrents économiques, comme à Djavon, ne rendent au pays, dialogue, ça ne veut rien dire. Peut-être Patrice Talon veut gagner du temps et joue avec les nerfs du pays.
Il gagne du temps, dites-vous. Hein. En tout cas,
si vous permettez, monsieur
Francis Loco.
Non, je crois que la population, le peuple. Non,
alors, je précise, tout à l'heure, on a évoqué les exilés. Oui. Je pense quand même que vous avez été le cabinet de l'ancien maire de Cotonou, qui est aussi en exil.
Absolument. Mais je voudrais dire quand même quelque chose, si vous permettez, monsieur Loco, c'est que, par rapport à votre question, le peuple béninois n'est pas du tout découragé. Parce que quand on regarde les faits, le régime en place de la rupture a tué le 1er et le 2 mai à Cotonou. On pensait que les populations seraient terrorisées. Mais quelques semaines après, à Save et à Tchaourou, les populations se sont levées et le régime a encore tué. Et on a vu le président Soglo se lever à Dantokpa, Madame Rosine Soglo également, le président Yahi fait une résistance homérique à Cotonou. Non, je crois que l'opposition en général est debout, le peuple béninois est debout également.
Il n'y a donc pas de risque à ce que la population s'habitue à cet état de fait?
Certainement pas.
En tout cas, une bonne partie de la diaspora béninoise poursuit la fronde contre le régime béninois et continue d'initier diverses actions pour, dit-elle, hein, cette diaspora, restaurer la démocratie et l'état de droit au Bénin. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'une nouvelle manifestation de cette diaspora est prévue pour ce samedi à Paris. Francis Loko, est-ce que, voilà, une nouvelle manifestation pour faire passer le même message que celui passé, en tout cas celui qui a été porté lors des manifestations antérieures, oui, précédentes?
Oui, cher monsieur, non, je crois que notre objectif, hein, au niveau du collectif, c'est de mobiliser l'ensemble de la diaspora, pas simplement en France, en Europe et tous les amis du Bénin.
Est-ce que le régime béninois, le régime de Patrice Talon, est sensible à ces manifestations? Quel en est l'impact sur la situation en cours au Bénin?
Écoutez, cher monsieur, en tout cas, au niveau du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, depuis quelques mois, nous avons fait un gros travail pour mettre un projecteur, j'ai envie même de dire des projecteurs, sur le Bénin, pour éviter que Talon ne fasse un huis clos sur notre pays. Et je pense que nous y sommes largement arrivés. L'ensemble de la communauté internationale est informée, est autorisée. Et je crois que ce travail est en train de payer.
En tout cas, plus le temps passe, hein, plus ces actions de la diaspora prennent les allures d'une résistance. On verra dans quelques instants quelles sont les forces sur lesquelles s'appuie quand même ce régime, hein, le régime de Patrice Talon. Est-ce que c'est un régime isolé ou alors compte-t-il encore sur certains soutiens à l'intérieur comme à l'extérieur?
La réponse est vite trouvée.
Vous avez la réponse, Francis Loko?
Oui, bien sûr, cher monsieur. Oui. Il s'appuie sur une partie de la police et sur une partie de l'armée.
Et à l'extérieur du pays, est-ce qu'il y a des partenaires extérieurs qui soutiennent ce régime?
L'essentiel, c'est la population. Et la population s'est exprimée lors des dernières élections massivement pour une abstention. Le message
sans aller très loin à l'extérieur, restons dans le champ de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a aujourd'hui certains dirigeants qui soutiennent l'action de Patrice Talon ou pas?
Honnêtement, il faut parler avec une certaine forme de responsabilité. Hein.
Je ne vais pas citer de nom.
Je note simplement que la CEDEAO, qui regroupe quand même l'ensemble des États anglophones et francophones d'Afrique de l'Ouest, s'est prononcée de façon très nette, très claire, comme j'ai dit tout à l'heure.
Oui, mais est-ce qu'il y a quand même quelques coups de fil, parallèles à cette résolution collective de la CEDEAO?
Mais bien sûr, les présidents s'activent. Le président Soglo s'active énormément.
Est-ce que c'est un béninois, marque une certaine indulgence à l'égard d'indulgence à l'égard de Patrice Talon?
Il est certain, je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Avant cette réunion de la conférence des présidents de la CEDEAO, le régime a tout fait pour que la question béninoise ne soit pas mise, n'est-ce pas, au cœur, n'est-ce pas, des travaux de la conférence. Il n'a pas réussi. Oui. Et vraiment, la question béninoise a été au centre. Oui. Les chefs d'État se sont prononcés.
Je vous rassure parce que vous ne voulez pas citer un nom, mais on parle quand même beaucoup de la bienveillance, hein, pour n'employer que ce mot-là, du président ivoirien Alassane Ouattara à l'égard du président béninois.
Il n'empêche que l'ensemble...
Vous le confirmez ou pas?
Non, je note simplement que l'ensemble des chefs d'État de la sous-région se sont prononcés en faveur, finalement, de l'opposition.
C'est le collectif qui prime, c'est ça?
Absolument, absolument.
On marque une pause, messieurs, on revient dans quelques instants pour porter encore un regard sur cette situation au Bénin. Et dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons du Cameroun, l'offensive de la diaspora camerounaise à Genève, avec cette forme d'interdiction de séjour, en quelque sorte intimée désormais à Paul Biya, le président camerounais, sur le territoire helvétique. A tout de suite.
Analyse, commentaire, coup de cœur, coup de gueule. Vendredi, c'est permis. La revue de l'actualité, comme nulle part ailleurs, sur Africa Radio.
Et un plateau 100% politique aujourd'hui avec Joël Didier Ngo, Francis Loko et Basile Akodé. Nous parlons du Bénin et du Cameroun. Quatrième rassemblement des Béninois de la diaspora ce week-end à Paris, devant l'ambassade du Bénin à Paris. Ça se passera demain, samedi, à 14h, pour exiger, je cite, la reprise des élections législatives et le retour de la démocratie au Bénin. Les Béninois patriotes de la diaspora exigent, je lis le document bien sûr, l'annulation de la parodie d'élections législatives organisées le 28 avril 2019, l'abrogation de toutes les lois liberticides et scélérates, notamment les lois électorales des l'exclusion administrative et financière, l'audit international indépendant du fichier électoral national, la reprise des élections législatives pour le compte de la 8e législature dans des conditions démocratiques dignes de confiance, inclusives, crédibles, transparentes et apaisées, la libération de tous les prisonniers politiques, la mise en place des conditions favorables pour assurer le retour de tous les exilés politiques, la fin des persécutions, enlèvements, séquestrations, arrestations, emprisonnements, poursuites judiciaires et agressions physiques des opposants et activistes du web, une enquête internationale totalement indépendante sur les massacres des populations civiles à Cotonou, Kandi, Chaourou et Savé. Vas-y, Lakodé, vaste programme pour cette manifestation.
Absolument. Il faut dire que depuis l'avènement du Parti Citadin et depuis que nous avons commencé à nous mobiliser au niveau de la diaspora, cette mobilisation continuera jusqu'à ce que la démocratie soit restaurée au Bénin. Mmh. Ça veut dire que demain, c'est une sorte de rappel des exigences donc de la diaspora. Mmh. Tant que cette assemblée ne sera pas dissoute, tant que les lois scélérates n'auront pas été abrogées, tant que le climat de terreur que fait régner Patrice Talon sur ses concitoyens va continuer, tant que l'autocratie va continuer à régner, tant que la volonté de Talon va continuer à s'appliquer à la place donc du respect de la constitution de 11 décembre 90, la diaspora ne lâchera pas.
Est-ce qu'un retour en arrière, Francis Loko, est possible aujourd'hui pour ce régime? Parce qu'on a quand même atteint par endroit un point de non-retour, notamment avec des tirs à balles réelles sur les citoyens béninois. Il faudra bien que quelqu'un en réponde un jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible, alors c'est une question qu'on pose toujours quand il y a une crise quelque part, est-ce qu'on peut résoudre un problème avec ceux qui l'ont posé, ceux qui l'ont occasionné?
C'est une bonne question, M. Loko. Il est incontestable que dans la situation où nous sommes, il y a une absence de confiance totale dans le régime en place. C'est un vrai problème et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'une tierce organisation s'implique dans ce problème. Hein, il y a vraiment c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a comme un traumatisme chez nous. Le vouloir vivre et attaquer. On tire sur des personnes. Vous vous rendez compte que les corps des suppliciés n'ont pas été rendus aux familles. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de cynisme.
Toujours pas.
Voilà, toujours pas. Donc il y a vraiment une. Je crois que le pays court est dans une situation dramatique. Il faut absolument de l'aide. Et cette aide ne peut venir que d'une tierce personne.
Absolument. Vous pensez à qui ou à quoi précisément? Écoutez, à un organisme en particulier
qu'on appelle l'épiscopat a pris des initiatives qu'on doit prendre au sérieux puisque l'épiscopat a joué un rôle certainement central dans les années 90. Il s'emploie. Il y a effectivement la CDAO également qui est en mouvement. Je crois que certainement qu'il va y avoir certainement des initiatives. Sinon, il y a un risque de...
Mais ce pouvoir rester jusqu'à présent sourd et hermétique, fermé en tout cas, à toutes ces initiatives.
Mais je vais parler de façon très concrète, M. Laloupo. S'agissant de l'élargissement du président Yahi, s'il n'y avait pas eu l'intervention, si j'ose dire, avec gros bâton du président du Nigeria, jamais le président Talon n'aurait lâché la bride au président Yahi. Donc je crois qu'il faut une personne, une structure en capacité, n'est-ce pas, si j'ose dire, de se faire obéir par le régime.
Puisque vous parlez du président Boni Yahi, l'ancien président, en tout cas le prédécesseur de celui-ci, le prédécesseur de Patrice Talon, dont la maison a été encerclée militairement, qui a subi, je dirais presque, un siège militaire absolument. Pendant 50 jours au moins, une cinquantaine de jours, et qui a été donc libéré récemment et qui a dû quitter le pays d'ailleurs dans la foulée, puisqu'il a été quasiment exfiltré pour quitter le pays. D'abord, vous avez de ces nouvelles, vous savez où il se trouve actuellement le président?
Voilà, je crois que c'était aussi encore un exemple très concret. Le président Yahi n'a pas divulgué à l'endroit où il se trouve pour des raisons de sécurité.
D'accord.
Vous voyez un peu le contexte dans lequel nous vivons.
D'accord. Voilà. Alors, Basile Accordé, c'est quand même un cas très particulier parce que on voit, c'est pas la première fois qu'un président, quel que soit d'ailleurs le régime, hein, pousse à l'exil, parce que c'est le cas désormais du président Bolivia Yayi, pousse à l'exil un ancien président, un prédécesseur. Quelle réflexion vous inspire cette situation particulière? Est-ce qu'on peut imaginer que Bolivia Yayi reste en exil indéfiniment, enfin indéfiniment, tant que Patrice Talon est au pouvoir?
C'est une question importante dans la mesure où, d'abord, nous nous insurgeons contre ce qui a été le sort qui avait été réservé au président
Boni
Yayi. Voilà, même à titre d'un simple citoyen qui est assigné à résidence chez lui, mais officiellement...
Sans raison officielle.
Sans raison. Et quand on pose la question, officiellement dit, on ne lui reproche rien, qui n'est pas en raison surveillée. C'est de l'arbitraire inadmissible. Mais je dois dire que, heureusement, notre peuple est debout. Parce que quand on a vu la réaction des populations qui ont entraîné les événements donc, du 1er et du 2 mai dernier, c'est que les populations n'ont pas accepté que cet arbitraire soit exercé. Donc c'est une situation qui est incompréhensible et c'est ce qui fait que Patrice Talon il doit revenir sur le juste chemin. Sinon, parce que comme on le connaît là, il faut un rapport de force en face de lui avant qu'il ne cède. Parce que avec la crise à laquelle nous faisons face là, la crise qu'il a créée sciemment. Moi, c'est pas que je ne crois pas aux médiations, mais encore faudrait-il qu'il accepte la vraie médiation. Plus d'une fois, il a prôné ce dialogue. La dernière fois où il avait désigné le président de l'Assemblée nationale pour trouver un consensus concernant les lois électorales, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça n'a pas abouti à cause de lui. Parce qu'on sait, les Béninois ont appris à le connaître. Moi, je ne fais aucune illusion. Je ne fais aucune illusion sur la suite des choses. Quelles que soient les médiations, Patrice Talon doit reculer. Parce qu'il y a des points, c'est la démocratie, l'état de droit, l'état de siège, il doit le lever.
On va conclure sur ce sujet. On va rappeler tout à l'heure cette manifestation de la diaspora béninoise demain à Paris. Ça se passera devant l'ambassade du Bénin, métro Victor Hugo. Hein,
voilà. Absolument.
À 14h. Je vais conclure avec vous, Didier Ngo. Voilà l'exemple type d'une crise fabriquée de toutes pièces dans un pays qui était en paix, avec sa démocratie évidemment forcément imparfaite. Et voilà un régime issu d'ailleurs d'élections démocratiques et qui fabrique de toutes pièces une crise. Comment sort-on d'une telle situation?
Je ne sais pas si j'ai la boule de cristal pour dire comment on sort de cette situation. Il y a une sortie, c'est celle qu'a proposée notre ami ici, qui est la médiation internationale. Il faut une tierce personne pour ça. Mais encore.
Mais la médiation fonctionne quand il y a deux clans ou deux factions ou deux groupes qui se combattent. Là, c'est un régime qui s'est levé un matin en disant voilà, on va vous imposer une crise. C'est une crise imposée à une population.
On ne peut pas non plus nier qu'il y a une crise.
La population n'est fâchée avec personne, a priori. Hein.
Même s'il n'est pas fâché, on ne peut pas nier qu'il y a une crise institutionnelle au Bénin actuellement. Le Parlement issu de ce qu'on a appelé une élection, une parodie d'élection qu'on connaît nous dans nos pays, ne peut pas être considéré comme un Parlement légitime. À moins d'être aveugle et sourd, ce qui s'est passé au Bénin appelle au moins que le président Talon organise, mette en place les conditions où on fait un retour aux institutions issues d'un cadre des élections transparentes et libres. Mmh. Parce que le Parlement, actuellement, je ne sais même pas s'il siège. Peut-être vous êtes mieux placé que nous. Moi, je suis encore surpris que ces gens osent siéger avec ce qu'on a vu. Mmh. Et dans quel contexte ils sont arrivés. L'idéal, ce serait vraiment la médiation d'une tierce institution ou d'une tierce organisation connue qui a la crédibilité internationale et qu'on fasse un dialogue, ce qu'on appelle un dialogue inclusif où on exclut aucune des parties. En présence.
À suivre tout de suite le Cameroun.
Africa. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupo sur Africa Radio.
Le Cameroun avec cette offensive de la diaspora camerounaise contre le président Paul Biya, pas au Cameroun mais en Suisse. Hein. Des faits inédits qui se sont produits à Genève au cours du week-end du 22 juin dernier, alors que Paul Biya et son épouse et leur délégation de villégiature sont arrivés le 23 juin au soir dans la capitale helvétique pour un séjour de plusieurs semaines dans leur hôtel habituel, l'Intercontinental. Un véritable commando d'opposants politiques a décidé de leur rendre la vie impossible pour protester contre ces séjours suisses à répétition de leur président. Résultat de ces manifestations, pas comme les autres, hein, dans un pays, il faut le dire quand même, où on aime plutôt la discrétion. Alors pour éviter une nouvelle manifestation samedi dernier, les autorités ont, en termes diplomatiques, vivement encouragé le président camerounais a écourté son séjour. Il a donc dû quitter la Suisse le 5 juillet dernier. Joël Didier Ngo, alors vous êtes très au fait de ces événements. Que s'est-il passé exactement?
Que s'est-il passé? C'est une histoire que connaissent aujourd'hui toutes les chancelleries et tous les Africains, puisque les Camerounais étaient devenus la risée du monde. Depuis 37 ans, nous avons un chef de l'État qui loue à l'année une suite à l'hôtel Intercontinental
à Genève. Un étage entier.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parlait du Bénin tout à l'heure, vous imaginez un président de la République qui loue, qui ne tient jamais de conseil des ministres et qui loue une suite entière, au moment où, en plus, assez singulier, j'en parlais dernièrement, où les Africains, ses pairs africains réfléchissaient sur la zone de libre-échange en Afrique, on préparait le sommet de l'Union africaine au Niger. Notre président, lui, pense à une seule chose, rejoindre sa suite en Suisse. Certains ont essayé d'habiller ça en disant, mais vous savez, il est en Suisse parce qu'il il y a un début, il y a des fragments d'un début des négociations avec la crise anglophone.
Oui.
Après vérification, il n'était même pas concerné par ça. Ça veut dire que le type allait vraiment en villégiature. Et il faut quand même dire une chose, c'est que nous, Camerounais, parce que là, je m'exprime comme Camerounais, on a une patience qui est extraordinaire. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait cette patience. C'est parce que nous sortons, la période des indépendances a été extrêmement violente chez nous. Toutes les têtes de l'UPC ont été tuées. Et ce qui fait que les réminiscences de ça faisaient que les Camerounais ont eu une patience d'or, d'ange avec Paul Biya.
C'est vrai que ça fait des années quand même
que ça durait.
Et quand il vient dans son pays, on dit
qu'il imaginez-vous que lorsqu'il décolle à Yaoundé, le grand quotidien national, la Pravda nationale, titre Paul Biya va défier la diaspora en Suisse.
Ah oui.
Évidemment.
Alors, on a pu noter d'ailleurs un fait extraordinaire lors de ce fameux week-end des membres du service de sécurité du président Paul Biya qui ont sévèrement malmené un journaliste de la radio suisse ont été arrêtés. Six d'entre eux ont été condamnés par la justice genevoise à de la prison avec sursis. C'est presque incroyable.
Ils avaient leur quartier à l'hôtel Intercontinental. C'était un petit territoire camerounais. Ça veut dire que lorsque Paul Biya, avant qu'il n'arrive, il y a déjà toute une bande de soldatesques qui vivent là et ils font ce qu'ils veulent. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas intégré que, d'une part, la Suisse était un territoire qui tolère au moins la liberté de manifestation. La liberté de manifestation est inscrite dans...
Mais ne tolère pas qu'on moleste un journaliste.
Et ne tolère pas, en plus, qu'on tolère un journaliste suisse. Oui. Parce que c'est un journaliste suisse qui a été molesté. On a pris son appareil, on a pris tout ce qu'il avait enregistré. Il a été sérieusement molesté. Et les gardes du président Biya ont été convoqués. Ils sont passés en comparution immédiate et condamnés à 6 mois avec sursis. Et je pense qu'ils ont été expulsés avant même le président. Donc, ce sont des choses... Quand on est Camerounais, ça fait rire, mais on a encore un peu de fierté. On se dit, on ne peut pas être heureux de ça. Mais c'est la suite d'un pays... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Cameroun aujourd'hui est presque comme une prison à ciel ouvert à grande échelle. on ne manifeste pas. On ne manifeste que si on fait partie du parti du président et où on fait partie d'un des partis satellitaires du parti du président. Mais tous les autres, lorsqu'ils manifestent, ils se retrouvent au Newf, comme on dit vulgairement. Maurice Kamté au Newf, 500 membres et sympathisants de son parti sont au Newf. Donc, ce qui reste aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, la vraie opposition à Paul Biya est en diaspora.
On va continuer d'en parler après la dernière pause. Vous me direz justement si les opposants camerounais de la diaspora ont ainsi réussi à compromettre durablement les séjours helvétiques devenus récurrents de Paul Biya. On en parle juste après cette courte pause. À tout de suite.
Vendredi, c'est permis. L'actualité dans tous ses états avec Francis Laloupo et ses débatteurs.
Avec Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques, Francis Loko, membre du bureau politique de la Renaissance du Bénin et membre du collectif La Sauvegarde de la Démocratie au Bénin, le CSDB. Basile Akwadi est avec nous, membre de la direction du comité culturel pour la démocratie au Bénin et membre également du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Alors Didier Joël Ngo, voilà le président camerounais donc devenu un hôte encombrant hein, pour les autorités suisses. Alors ma question est celle-ci, vous avez un peu répondu tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant ou de déprimant en tout cas pour les Camerounais de voir leur chef d'État quasiment, bon, bien sûr diplomatiquement, mais quand même interdit de séjourner dans un pays étranger, presque renvoyé chez lui quoi.
On a un sentiment au-delà du fait qu'on peut avoir des divergences avec l'homme ou l'homme politique, on a d'abord un sentiment d'humiliation quand oui. même, je ne peux pas vous
c'est,
le cacher.
C'est le mot que j'ai évité d'employer.
On a d'abord un sentiment d'humiliation, je vous le laisse, oui. Mais en même temps on se reprend, on se dit quand même que c'est un chef de l'État. Vous avez déjà vu un chef de l'État qui vient résider dans un palace à l'étranger pendant
la moitié de l'année.
La moitié de l'année. Nulle part, même pas les rois du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, aucun ne le fait. Donc il y a quand même un problème, au-delà du fait que c'est quand même l'argent du contribuable. Nous sommes, j'en parlais, y compris pour ceux, moi je viens de la région de Paul Biya, le sud du Cameroun, les fans en fait qui vont au Gabon et en Guinée équatoriale. Aucune des villes qui sont les chefs-lieux de département dans cette région n'est reliée par une route bitumée. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Et vous avez un chef d'État depuis 37 ans qui loge à l'hôtel intercontinental avec une suite louée à l'année, sans compter que lorsqu'il arrive là, il a une suite, sa suite c'est un effectif pléthorique. Tous ces gens-là sont aux frais du contribuable camerounais. Il y a un moment quand même où en fils, parce que là je m'exprime en fils, on peut dire au papa ou au grand-papa, il y a un moment où il faut savoir arrêter. La note a quand même été assez lourde pour bien un sûr. Pays comme celui-là, avant même de rentrer dans des considérations politiques.
Est-ce que les opposants, excusez-moi le terme, ont réussi leur coup finalement en compromettant durablement ces séjours helvétiques célèbres de Paul Biya?
La vérité, c'est qu'on les présente comme des opposants.
Enfin, ils se présentent comme tels, vous le savez
bien. La brigade, parce que c'est très dangereux, pourquoi je dis ça. Oui. Parce que la brigade anti-Sardinard est présenté par le régime de Paul Biya comme des opposants.
Alors, anti-Sardinard, dites à ceux qui ne le sauraient pas. Qu'est-ce que c'est ?
Anti-Sardinard, c'est quoi ? C'est que nous avons un régime qui dure depuis 37 ans, qui a une certaine illégitimité et qui a une impopularité malgré ce qu'il montre, qui s'est mis à manier le mauvais côté des choses, qui est le tribalisme. Et ils ont créé un vocable qui est qu'on associe les gens de l'Ouest à la tontine. Les Bamileke, les grands commerçants Bamileke ont dit qu'ils font fortune par la tontine. Donc, ils ont appelé tous ceux qui étaient des pro-Kamto, Maurice Kamto est un homme de l'Ouest, hein, Bamileke, en les appelant des tontinards. Et quand Paul Biya, pendant la présidentielle, Paul Biya ne peut plus faire une campagne. Donc, tous ceux qui faisaient la campagne en son nom faisaient la campagne en distribuant de la sardine et du pain. Voilà comment ceux qui s'opposaient à Paul Biya se sont appelés
la
brigade anti-Sardinard. J'espère que j'ai très bien
expliqué. De manière très concise d'ailleurs.
Donc cette brigade anti-Sardinard, ce serait erroné de penser que ce sont des opposants. Ce sont des jeunes activistes de la société civile.
On a reçu quelques-uns ici.
Avez reçu quelques-uns ici. Et le régime joue habilement à essayer de les rapprocher à Maurice Kamto. C'est ça que je voulais dire. Ça n'a rien à voir.
Ce sont des jeunes qui sont activistes de la société civile, qui disent on en a marre. Mmh. Et qui en étaient même au début à critiquer Maurice Kamto, parce qu'ils disaient que Maurice Kamto n'en fait pas assez. Mmh. Ils étaient contre l'élection, parce qu'ils disaient que c'était un attrape-con, c'est ce qu'on disait, parce qu'on savait que le processus électoral est faussé au Cameroun. Mais Maurice Kamto y est allé quand même. Donc aujourd'hui, quand le régime retourne la brigade anti-Sardinard en disant que ce sont des pro-Kamto, c'est un peu fausser les choses, c'est une mauvaise présentation, c'est une manipulation. Ce sont des jeunes qui disent, nous, vous avez fait, vous vous êtes opposés à Paul Biya avec vos manières, vous n'y êtes pas arrivés. Nous, nous avons notre approche maintenant. Je ne partage pas forcément cette approche-là, mais... Mmh. Apparemment, elle fonctionne puisque c'est la première fois que Paul Biya est délogé de son hôtel et qu'il rentre manu militari au Cameroun.
C'est une nouvelle forme de résistance, quoi.
Oui, c'est une forme de résistance, au moins qu'on puisse dire.
On va conclure avec le Bénin, avec cette manifestation de la diaspora béninoise demain samedi 13 juillet devant l'ambassade du Bénin à Paris, métro Victor Hugo, à partir de 14h très précise, en signe de solidarité et de soutien au peuple béninois en lutte pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, j'ai cité. Alors pour conclure, Basile Akodé, je vais commencer avec vous, je vais terminer avec Francis Loco. Est-ce que le Bénin est en train de vivre une mauvaise parenthèse, disons un cauchemar éveillé, ou alors on s'installe désormais dans une crise durable du système?
Non, à mon avis, c'est un mauvais moment que nous suivons, mais c'est temporaire, dans la mesure où, en dernière analyse, notre peuple est debout, et quelle que soit la volonté de Talon de lui en imposer, il aura toujours le dernier mot. J'en suis persuadé. Parce que nous avons la mémoire.
Donc pour vous, il faut écarter. Enfin, vous n'attendez rien du dialogue, quoi, c'est ça?
D'un dialogue pour... Honnêtement, rien.
D'accord.
Parce qu'il n'est pas capable d'un dialogue.
Francis Loco.
Oui, merci, M. Loco. Non, je pense que le peuple béninois se bat. L'opposition se bat. Oui, au dialogue, hein, avec des médiateurs tout à fait, comment dirais-je, en capacité de faire ce genre de choses. Et puis. Ce qui également me paraît important, c'est que il y a un préalable, il y a des préalables au dialogue, hein, et c'est toujours j'ai envie de dire que ce sont victimes des minima qu'on restitue les corps des suppliciés, qu'on libère les prisonniers politiques, que les exilés retournent au pays. Je vous donne un exemple, le président de la Renaissance du Bénin, Aliadis Oglou.
Ancien maire
de Cotonou.
En fait, maire destitué.
Maire destitué, absolument.
Par ce régime.
Doit pouvoir, n'est-ce pas, rentrer pour participer au dialogue. Ça me paraît être le minimum des choses. Hein. Donc voilà un petit peu, il y a des préalables pour qu'on puisse aller de l'avant, mais dans tous les cas de figure, le peuple béninois et l'opposition ne se laissera pas faire. Ça, c'est évident.
Merci beaucoup, merci à vous d'être venu. Autre manifestation. Alors, on aurait pu appeler cette édition de Vendredi, c'est permis, diaspora en lutte, hein,
absolument,
de cette manière.
Absolument.
Nous avons évidemment toutes les diasporas ici, diaspora béninoise, diaspora camerounaise. Et pour le Cameroun, il y a une marche qui est prévue.
Là, c'est une diaspora africaine, hein, parce que c'est la convergence des organisations.
C'est pourquoi je pense autant au Cameroun, évidemment, je suis un peu.
La convergence de tous les pays.
On a tous mal au Cameroun, c'est pour ça que j'y pense tout le temps. Alors, c'est une marche africaine, effectivement, qui rassemble aussi bien des ressortissants d'Afrique que des Antilles, et bien au-delà aussi, grand rassemblement des enfants de l'Afrique. Alors, c'est marqué tous au palais de l'Élysée à partir
en fait,
de 12h.
Le rassemblement aura lieu à la place de la République à midi, et après la marche va converger. Où on y...
Alors, vous allez faire une convergence des luttes peut-être demain.
Évidemment, mais avec plaisir, c'est naturel. On vient de se connaître, et comme j'ai dit qu'on a du boulot pour M. Ngo. Là,
hein, parce on a beaucoup de boulot, et il faut préciser là-dessus par rapport au Bénin que. Il faut libérer les prisonniers politiques. C'est anormal, et je le dis par rapport à la France aussi, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'à Paris, on hésite un peu à reconnaître, à donner un statut de prisonnier politique à ceux qui le sont, et d'exilé politique à ceux qui le sont. Il faut aussi qu'on martèle ici que des gens qui se retrouvent ici, après avoir, parce qu'ils ne l'ont pas voulu, il faut que la France leur accorde un statut qui correspond exactement à ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont des exilés politiques. Et ça, je voulais le dire par rapport au Bénin. c'est très important.
Ce qu'il y a de commun entre vos deux manifestations, c'est que ces deux manifestations, de toute façon, alertent l'opinion internationale.
Alertent l'opinion internationale et la France particulièrement sur qu'on ne peut plus, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Il y a des points, des lignes rouges qu'on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter que des autocrates se comportent comme le faisaient les gens dans les années 80 où on s'assoit carrément sur des institutions. On pense que parce qu'on a été élu, entre guillemets, on peut tout se permettre. Ça, on ne le permet pas. Et en cela, le Bénin est très important pour nous. Ce qui se passe au Bénin pour nous est vraiment très important.
Si vous permettez, je veux dire qu'avant de venir ici, j'ai eu quelques camarades de Cotonou qui m'ont demandé de vous remercier. Parce qu'ils m'ont dit, écoutez, on n'a pas à nous. On ne peut pas parler, on a peur de parler. Tu as la chance que M. Lalupo te donne la parole. Profites-en pour dire ce que nous vivons. Hein, voilà. Et puis je voudrais aussi profiter pour saluer, remercier mes petits camarades du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin qui se battent et qui font beaucoup. Alors je voudrais aussi faire un peu de publicité. On a besoin de sous, chers compatriotes béninois. D'abord, venez nombreux à nos manifestations. Et puis on a une cagnotte Litchi. N'hésitez pas à nous soutenir pour notre pays. Bien aimé, merci beaucoup.
La cagnotte pour le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, c'est ça?
Merci beaucoup.
Le CSDB. Hein.
Voilà.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir apporté ces messages sympathiques. En tout cas, nous faisons de notre mieux pour informer l'opinion, toutes les opinions, l'opinion internationale notamment. Merci à vous d'être venu, Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques, le CL2P. Francis Loko, merci d'être venu membre du bureau politique de la Renaissance du Bénin, membre du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, le CSDB. Vasile Akonde, merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez, puisque c'est la première fois que vous venez dans ce plateau. Hein,
absolument, absolument.
C'est un plaisir de vous recevoir, Vasile Akonde, membre de la direction du comité culturel pour la démocratie au Bénin, le CCDB, et membre aussi du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, le CSDB. L'émission a été remarquablement réalisée par Antoine Cruchon. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, en podcast sur notre site africaradio.com dès ce soir. Hein. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Vendredi, c'est permis. Entre-temps, on se retrouve lundi à 18h pour une édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa Radio de préférence. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas, encore et encore.